7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, gros plan sur les entreprises libérées. Je vous rassure, c'est un concept tout à fait inconnu du grand public en France et ailleurs, mais qui concerne plusieurs centaines de PME et grandes entreprises qui fonctionnent désormais sans véritable hiérarchie, mais centrée sur la confiance en la capacité humaine et la responsabilisation de chacun. Tout cela pourrait rester un sujet tout à fait confidentiel de management, sauf qu'un patron, Alexandre Gérard, 300 salariés dans le BTP, a raconté son expérience et la révolution de son entreprise dans un livre assez passionnant, Le patron qui ne voulait plus être chef. C'est le récit d'une transformation de plusieurs années qui pourrait s'appliquer aussi bien d'ailleurs à une salle de classe qu'à la gouvernance d'un pays, bref, à toute une organisation humaine. Alexandre Gérard, sur votre carte de visite, il n'y a pas de titre, hein, je crois.
Non, c'est fini depuis un certain temps.
Il y a votre nom, votre numéro de téléphone et votre mail, c'est
exactement,
ça?
Exactement.
Vous n'avez pas d'assistante?
J'ai eu une assistante pendant une quinzaine d'années et je travaille avec une équipe, mais il faut qu'ils acceptent de bosser avec moi. C'est-à-dire que si jamais ils ne veulent pas faire les choses, ben ils me le disent, je me débrouille tout seul.
Et vous n'avez pas de bureau et pas de place de parking attitré. D'ailleurs, du coup, je ne vous ai même pas dit bonjour. Les salariés peuvent recruter chez vous eux-mêmes leurs collègues et les managers sont devenus des animateurs. Mais bien sûr, vous allez nous en parler. Tout cela pour faire quoi? Ou plutôt pour servir quel objectif business, puisque vous êtes bien une entreprise? Vous revenez d'une série de conférences au Canada et partout, on vous pose évidemment ces mêmes questions. L'entreprise libérée est-elle une utopie ou l'avenir d'une économie agile dans un monde digital de plus en plus complexe? On va en discuter aussi avec nos invités. Hubert Landier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président de l'Institut international de l'audit social. Vous êtes également enseignant à l'ESSEC, une célèbre grande école de commerce française en relations sociales. Mamadou Gueye, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultant facilitateur en transformation culturelle des entreprises par l'intelligence collective. Vous nous direz un peu ce qu'attendent vos clients. Évidemment, beaucoup d'entreprises aujourd'hui sentent bien qu'il faut bouger, mais dans quel sens? Les voisins, que vous soyez, je ne sais pas, que vous soyez chef cuisinier ou élu local, vous êtes forcément concerné par le sujet. Vous pouvez poser toutes vos questions en direct sur les entreprises libérées, 33 1 84 22 71 71 et bien sûr, tous vos commentaires sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Oh yeah.
Milliards de voisins, c'est maintenant.
Alexandre Gérard, alors bien sûr, on ne peut pas raconter toute votre histoire dans votre livre, mais le changement radical de fonctionnement de votre entreprise Chronoflex et le groupe InnovOn est né de la crise de 2008. Vous avez dû licencier donc en 2010, bah, comme beaucoup d'entreprises en France et ailleurs, dans un contexte qui touchait l'Amérique et l'Europe. Évidemment, vous n'étiez pas vous-même responsable d'un carnet de commandes déserté par les clients. Alors pourquoi vous vous êtes dit à ce moment-là, il faut tout changer?
Oui, alors l'aventure commence en 95 finalement, au tout début. Hein, on part de zéro, on lance une nouvelle idée en France, un métier que j'aime à présenter comme sexy puisqu'il s'agit du dépannage de flexibles hydrauliques sur site, un truc très barbare. On dépanne les machines de chantier.
Exactement.
Et l'entreprise est belle, 0 à 300 salariés en quelques années. Et comme vous l'avez dit, en 2009, c'est le cauchemar, de plus 30. On passe à moins 30, c'est une gifle
moins
absolument de chiffre d'affaires, de chiffre d'affaires. Et c'est une gifle terrible, on n'est pas prêt psychologiquement à affronter tout ça. Et la peur rentre dans l'entreprise, vous l'avez dit, il va falloir licencier pour sauver l'entreprise.
Bon, avec vous, toute l'économie française, hein, pratiquement.
Oui, enfin, on va vivre ça très mal. Et moi, en tant que dirigeant de cette entreprise, pendant 15 ans, j'ai été un patron assez autocrate, disons-le. Hein. C'était une organisation très conventionnelle, c'est-à-dire pyramidale. Et c'est moi qui pilotais, décidais dans cette entreprise. Et là, beaucoup de questions. Comment on fait pour ne plus jamais revivre ça? Comment je fais pour ne plus jamais avoir à licencier des personnes que je n'ai pas envie de licencier? Et cette quête va durer des mois jusqu'à un jour où je vais rencontrer deux personnes. Jean-François Zotbrist, l'ancien patron emblématique d'une fonderie Picard, qui a fonctionné comme ça depuis les années 80, sur un modèle alternatif. Et puis Isaac Goetz, un co-auteur d'un livre qui s'appelle Liberté et compagnie. Et ces deux personnes vont m'aider à changer mon regard sur l'entreprise. Ça va être le début d'une transformation qui dure depuis 7 ans aujourd'hui.
Mais sur le terrain, vous vous rendez compte quand le carnet de commandes est à plat, que les techniciens sont dans la routine, dans l'exécution parfaite de leurs tâches, mais ne vont pas, par exemple, prospecter vers de nouveaux clients. Il y avait déjà cette sensation-là.
Alors effectivement, l'organisation pyramidale, elle a pour conséquence globalement d'enclencher un mécanisme qui est celui du désengagement. En tout cas, c'est la perception que j'en ai. C'est-à-dire que finalement, si vous avez une vision déficitaire de l'autre, si vous pensez que l'autre n'est pas capable, si vous pensez que l'autre n'est pas suffisamment compétent pour faire le job, ben vous allez mettre en place des managers qui vont dire aux gens ce qu'il faut faire. Et finalement, petit à petit, ça va engager un désengagement. Or, ce qui est assez paradoxal, c'est que ces gens qui sont parfois désengagés dans l'entreprise peuvent, dans leur vie personnelle, être extrêmement engagés. Dans l'association de parents d'élèves, dans le club de kayak, ou etc. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là qui sont si engagés dans leur vie personnelle, quand ils franchissent le mur de l'entreprise, se désengagent? Voilà. Et ça, ça a été le début de cette réflexion. Et finalement, plutôt que d'avoir une vision déficitaire de l'autre dans l'organisation, si on a une vision appréciative, c'est-à-dire si on essaie de regarder le meilleur dans chacun de l'organisation, si on croit, alors je vais dire un gros mot, si on croit à la subsidiarité, c'est quoi la subsidiarité? C'est le fait de penser que ces équipes, ces équipiers, ont en eux les ressources pour faire face aux problématiques.
Tout le monde est forcément bon, c'est ça.
Alors c'est ce qu'on va poser comme hypothèse, hein. C'est que les gens savent faire et on va croire aux vertus de l'intelligence collective. Et finalement, si on regarde l'entreprise comme ça, on va enclencher un mécanisme qui va être un mécanisme d'engagement plus important, pas de tous, mais plus important. Les conséquences sont doubles. Un, l'organisation sera plus performante. Économiquement, si c'est une entreprise, en termes de services publics, si c'est une ville ou un ministère. Hein. Et puis, il va y avoir des gens qui vont être mieux dans leur peau, qui vont s'épanouir et qui vont mieux vivre cette
très concrètement, ça se traduit. Alors, on va le décrire simplement, mais évidemment, il faudrait y passer beaucoup de temps. Mais il n'y a plus de hiérarchie, donc vous n'êtes plus patron, hein, c'est bien ça. Il n'y a plus de manager.
Alors, si on veut essayer de décrire concrètement comment ça fonctionne, il y a une espèce de clé de voûte, c'est la vision et les valeurs. C'est-à-dire que nous avons ensemble, toute l'entreprise, on est 380 chez nous aujourd'hui, ensemble nous avons co-construit le projet de l'entreprise que nous appelons la vision. Nous avons aussi co-construit ensemble les règles du jeu que nous appelons les valeurs. Tout ça, ça a été fait ensemble. Et au milieu, c'est la confiance qui règne. Alors, je vais essayer de la traduire de manière très concrète.
Oui, parce que là, c'est un peu abstrait, hein, pour moi.
Un projet ensemble, c'est l'air où va l'entreprise.
Non, mais concrètement, au quotidien, ça veut dire quoi? Une entreprise où il n'y a pas de patron, où il n'y a pas de manager, il n'y a pas de chef de service? On s'adresse à qui quand on a une question à poser?
Oui, alors déjà, le premier principe, c'est que les équipes sont très autonomes. Une équipe, j'ai 46 équipes chez moi. Chaque équipe va décider de son projet à l'année, va décider de son budget, va décider de ses investissements, va décider de qui elle recrute, va décider de qui la lead, quel est le leader de cette équipe, et il procède à ce qu'on appelle une
élection.
C'est ça,
un manager, il est élu.
Il est élu par un processus d'élection sans candidat. Pourquoi pas de candidature? Parce que
c'est particulier, hein, quand même.
Mais oui, mais
élu sans candidat.
Pourquoi? Si vous dites qui est-ce qui veut être chef, qui est-ce qui veut être leader, vous allez avoir les égos qui vont se manifester. Or, on veut un système qui va être le plus dépourvu d'égos. Donc, en fait, le fait de dire, qui parmi nous a la meilleure exemplarité pour faire le job? Et si vous faites une élection sans candidat, vous allez faire émerger les leaders naturels de l'équipe. Et ça, c'est très puissant.
Alors, vous n'êtes pas du tout dans l'image de la meute de loups. C'est plutôt les oies, vous. Hein.
je trouve cette métaphore très jolie. Il faudrait qu'on en discute. En fait, cette équipe, un des principes, comme on l'a dit, c'est que l'équipe est autonome et elle va pouvoir faire vraiment, elle va pouvoir s'organiser au quotidien pour pouvoir répondre aux services que nous avons décidé de faire, c'est-à-dire le dépannage.
Donc, et toujours en équipe, donc pour reprendre la métaphore des oies que vous avez utilisée, je ne sais plus, dans une interview, on avance moins vite, mais on va plus loin.
Alors ça, c'est ce fameux dicton africain.
Pas vite une oie. Hein.
C'est ce fameux dicton africain qu'on aime beaucoup, qui dit « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Et si vous voulez faire ce parallèle avec les oies, alors, juste avant, comment ça se fonctionnait? Seul on va plus vite. Effectivement, avant, il me fallait peut-être 3 minutes pour prendre une décision, 10 heures pour la communiquer sur tout le réseau, on travaille sur toute la France et les dom-toms, et puis après, parfois 10 mois pour que ça soit appliqué. Aujourd'hui, ça fonctionne différemment. Puisque les décisions sont prises par le collectif, eh bien, elles vont bien sûr mettre un petit peu plus de temps à se prendre. Prenons l'exemple. On va prendre un exemple concret. Il faut que nous changions, par exemple, ou que nous remettions en cause le contrat de téléphonie mobile, par exemple. On est des très gros consommateurs de téléphonie. Avant, je prenais la décision, je l'imposais et je la faisais appliquer. Aujourd'hui, c'est un groupe de personnes, des volontaires, qui vont se réunir, qui vont vérifier qu'ils ont les compétences. Ils vont ensuite solliciter l'avis de toutes les parties prenantes et ils prendront la décision pour le collectif.
Mais ça prend un temps fou. Quand est-ce qu'on travaille dans votre entreprise?
La décision prend un petit peu plus de temps, mais l'exécution est 100 fois plus rapide. Parce que comme elle a été décidée par le collectif, l'exécution est mécanique, simple, très facile.
Est-ce que pour autant ça supprime les jeux de pouvoir qui sont présents dans toutes les organisations humaines de la Terre?
Est-ce que ça supprime les jeux de pouvoir? En fait,
le gars qui veut se faire bien voir de celui qui est leader.
Oui, alors, mais ce que je veux dire, c'est que comme on a un système d'élection sans candidat pour désigner leader, et comme ce leader remet son mandat sur la table tous les 3 ans, on évite les mécanismes de baronnie. Et ça, c'est quelque chose qui est assez puissant.
Alors, comment on progresse en termes de rémunération si au bout de 3 ans, on n'est plus vraiment leader et qu'on revient dans la meute d'oie?
Alors, le principe, c'est quand on est leader, on a une fiche de mission pour 3 ans. Voilà. Et la majorité, ce qui est absolument... c'est la réalité de ce qu'on vit, c'est que tous les 3 ans, la majorité des capitaines sont recooptés. Si on veut réussir ce type de transformation, il y a 3 choses qu'il faut considérer. Ça va fonctionner si les gens dans l'entreprise ont un véritable sentiment d'égalité. Je ne parle pas de l'égalitarisme à la française, je parle d'un véritable sentiment d'équité, si vous voulez. Je m'explique. Que j'ai 20 ans, 40 ans ou 60 ans, que je sois commercial, comptable ou mécanicien, peu importe, je suis un être humain, et ce que je pense, ce que je dis, intéresse le collectif. Ça, c'est le premier ingrédient qui va faire que je vais pouvoir m'engager un peu plus. Le deuxième ingrédient, c'est la possibilité de construire un parcours de vie au sein de cette organisation. Peut-être, comme vous, vous constatez que les gens qui rentrent dans une organisation à 20 ans ou à 25 ans n'ont pas envie de faire exactement le même boulot toute leur vie. Donc même si l'entreprise est plate, on va essayer de favoriser les parcours de vie. Et puis le troisième ingrédient, c'est ce qu'on appelle l'autodirection. C'est-à-dire que comme la confiance est au cœur de l'entreprise, eh bien, chacun va pouvoir prendre une décision pour servir le projet collectif sans avoir besoin de tirer la sonnette du chef. Si on réunit ces 3 ingrédients, on a créé les conditions qui vont permettre de satisfaire tous les besoins de l'être humain, quel que soit le continent, quel que soit l'âge, c'est-à-dire ce qui va nous permettre de nous épanouir.
Les résultats, 7 ans après, avant qu'on donne la parole à nos invités, qui vont évidemment vouloir vous questionner.
Alors, les résultats, moi je travaille avec un métier qui est le TP, hein, les travaux publics, la construction. C'est un métier qui en France souffre beaucoup. L'année dernière, nous avons embauché 50 personnes. Cette année, nous embauchons 50 personnes. On a fait 16% de croissance l'année dernière. On va faire, je pense, au moins 16 ou 17 croissances.
En quoi c'est réellement corrélé au changement radical, à la révolution dans cette entreprise?
C'est pas compliqué. En fait, en 2009, on a vécu une crise terrible. En 2014, le TP a vécu une crise qui est à peu près de même niveau. En 2009, on avait été obligé de licencier 60 personnes, plus de 60 personnes, et on avait fait 750 000 euros de pertes. Sur une année de périmètre équivalent en 2014, on a embauché plus de 60 personnes et on a fait un résultat de 780 000 euros net.
Voilà. L'absentéisme, ça on en parle souvent hein, en France, dans les entreprises.
Oui, bien sûr. L'absentéisme diminue, le turnover diminue. Enfin voilà, tous les chiffres, en fait, comme les gens sont bien dans leur peau, eh bien, tous les chiffres de performance globaux de l'entreprise sont meilleurs, bien sûr.
Alors, être heureux au travail pour être plus productif, les entreprises libérées, comment ça fonctionne? Bien sûr, vous pouvez, à la lumière des explications et du témoignage d'Alexandre Gérard, nous appeler si vous nous écoutez, quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous travaillez. C'est valable pour une épicerie avec 5 personnes, hein, tout ce que vous racontez, on est d'accord.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des caisses de la sécurité. Alors, en dehors des entreprises que vous avez...
C'est valable pour une école,
oui,
également.
Il y a des caisses de la sécurité sociale en France. Vous avez même une ville en France qui a commencé sa transformation.
Ouais, et un ministère aussi en Belgique, me semble-t-il.
2 ministères en Belgique.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Hubert Landier, les expériences d'entreprises libérées aujourd'hui se multiplient. On est quand même dans un monde en pleine transformation. Il y a la transformation digitale. Vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez, je suis frappé de voir à quel point tout ceci n'est pas nouveau. Hein. Parce qu'on a l'impression que l'entreprise libérée s'oppose à une organisation qui serait uniformément traditionnaliste, hiérarchique, militariste, pyramidale. Dans les années 80, on disait exactement la même chose. On parlait pas d'entreprise libérée, on parlait de management participatif, on parlait de DPPO, les mots étaient différents, hein, mais c'était la même chose. Je me souviens, c'était à la fin des années 80, un très grand patron qui était mon client, Antoine Guichard, le président de Casino, qui disait qu'il faut passer d'un management qui consiste à ordonner, contrôler et sanctionner à un management qui consiste à écouter, aider et former. Dès le début des années 80 et même à la fin des années 70, il y avait de nombreuses entreprises qui ne se prétendaient pas libérées mais qui avaient mis en place des équipes autonomes, qui avaient mis en place une organisation qui laissait un maximum d'autonomie aux gens dans leur domaine de compétences, c'est important. Ça revient aujourd'hui à la surface, à ces c'est très symptomatique et très intéressant, parce que il y a, toutes les enquêtes le montrent, venant des gens, des salariés, français ou étrangers, une demande de plus grande autonomie par rapport à une organisation qui reste très marquée par le taylorisme. Il y a aussi une autre demande, qui est une demande de sécurité, c'est-à-dire qu'il doit, dans l'entreprise, y avoir, en cas de conflit entre deux personnes, une instance d'arbitrage. Hein. Et c'est ça le rôle de la hiérarchie.
L'autonomie fait peser une insécurité sur les salariés ou pas ?
Et oui, bien sûr, parce que vous avez deux salariés qui ne sont pas d'accord sur la solution à adopter. Il va bien falloir avoir recours à quelqu'un pour trancher. Par ailleurs, le salarié, il est compétent dans son domaine de compétences, mais il peut avoir à demander ce qu'il faut faire.
Mamadou Gueye, vous, par rapport aux entreprises qui viennent vous consulter, comment vous ressentez ce concept-là ?
Moi, je le ressens d'abord à titre personnel, puisque j'ai travaillé dans une organisation très pyramidale, très infantilisante. Et je vous raconte cette anecdote un peu pour être tangible dans ce qu'on raconte.
Une entreprise qui faisait quoi, sans la nommer ?
Une grande entreprise d'organisation d'événements.
Ouais.
Et dans cette organisation, un manager, et ça faisait plus de 20 ans que je travaillais, m'a dit à la porte d'une salle de réunion, il faut pas prendre la parole, il y a le directeur général qui va prendre la parole. J'ai très mal vécu une remarque comme ça, venant d'un manager, avec qui j'étais censé travailler en toute confiance, et surtout c'était le marqueur d'une absence de confiance totale en ma capacité à juger de l'opportunité de contribuer dans une réflexion collective. Et c'est ce que je rajouterais à ce que vient de dire M. Landier, et c'est, je pense, ça l'élément complémentaire aujourd'hui, c'est que les gens aspirent à être heureux au travail. Alors c'est une notion qui n'est pas, pour le coup, dans les années que vous évoquiez tout à l'heure, qui n'était pas réellement pris en compte, mais les gens aspirent à une satisfaction au travail. Et Monsieur est responsable de Chronoflex, qui vient de témoigner, a eu énormément de courage à faire ça, parce que il a lâché prise, il a partagé son pouvoir avec ses collaborateurs et a décidé de leur faire confiance. Et ça, c'est un vrai changement.
Je voudrais vous lire le message d'une internaute, Soumaya, qui nous dit « En Afrique, ce système existe déjà. Les employés viennent quand ils veulent, partent quand ils veulent, prennent des pauses quand ils veulent, aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Dans les pays musulmans, on leur permet de ne pas revenir après la prière le vendredi. Il n'y a donc pas de pointeuse. Tout ça est normal, que ce soit dans l'enseignement, la santé, la banque. Une vision d'avenir, point d'interrogation, avenir catastrophique pour l'Afrique. » Évidemment, c'est un message qui est tout à fait ironique. Mamadou Gueye.
Dans le travail que je fais avec mes clients, je me sers beaucoup du concept d'Ubuntu, qui veut dire en Zoulou, je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Et ce qu'on vient de décrire en faisant confiance aux collaborateurs, en partant du postulat qu'ils ont une compétence intrinsèque liée à la position qu'ils occupent dans l'entreprise, ça c'est Ubuntu. Parce qu'on reconnaît à chacun sa contribution dans l'entreprise. On reconnaît à chacun son caractère indispensable. Parce que dans une entreprise, on a autant besoin de la personne qui va prendre les appels à l'entrée, parce que sans ces appels à l'entrée, il n'y a pas d'activité qui s'enchaîne derrière. Et donc, chaque élément dans l'entreprise a son importance, et c'est effectivement les leaders libérateurs qui donnent ce poids-là à l'assistante qui va prendre les appels, à la personne qui va s'assurer que la commande arrive bien à l'heure indiquée et promise aux clients, etc.
Ça ne veut pas dire qu'on renverse la table en termes de hiérarchie, et
absolument
qu'on supprime
pas
toutes les lignes hiérarchiques.
C'est ça une des confusions, c'est de dire l'entreprise libérée, il n'y a plus de management. C'est pas ça le cas. Le cas, c'est qu'on remplace un management pyramidal par d'autres règles élaborées collectivement. Et donc, c'est pas l'anarchie en face. Au contraire, c'est une forme de règles qui ont été élaborées collectivement avec un système de valeurs. Et je prends cet exemple-là. Tous les grands groupes dans le monde ont des valeurs. Beaucoup sont dans l'optimisation, la performance, etc. Mais ce sont des mots qui ne sont pas nourris par l'expérience et par le sens que chaque collaborateur va venir mettre dedans.
Et donc lorsqu'on élabore...
Et par des actes,
alors, on va en reparler, parce qu'Alexandre Gérard, là on manie de grands concepts, mais on va essayer de comprendre très quotidiennement ce que ça veut dire chez vous, parce que vous n'avez pas libéré votre entreprise avec de grands mots, mais uniquement par des actes. Vous restez avec nous, avec Hubert Landier et Mamadou Gueye, et bien sûr vous pouvez poser vos questions au 33 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. 7 milliards de voisins, on parle aujourd'hui des entreprises libérées. Non, ce n'est pas un jargon de management, c'est assez concret. C'est un mode de gouvernance qui renverse la table. Au lieu d'ordonner, de contrôler, de sanctionner, eh bien, l'entreprise libère, motive, fait confiance, responsabilise. On en discute avec vous, Alexandre Gérard. Vous avez plus de 300 salariés dans le BTP. Vous avez raconté votre expérience pour Chronoflex et votre groupe. Le patron qui ne voulait plus être chef. Hubert Landier, vous êtes vice-président de l'Institut international de l'audit social et également enseignant à l'ESSEC en relations sociales. Et Mamadou Gueye, vous êtes consultant facilitateur en transformation culturelle des entreprises par l'intelligence collective. Hubert Landier, alors vous souhaitiez répondre à Mamadou Gueye et Alexandre Gérard. Vous nous disiez dans un premier temps, en première partie d'émission, mais ce concept n'est absolument pas nouveau. Il y a beaucoup d'entreprises qui déjà travaillent plus sur des relations horizontales que pyramidales dans l'entreprise sans se réclamer de l'entreprise libérée.
Si vous voulez, je crois que c'est le taylorisme qui est en cause, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il y a ceux qui pensent et ceux qui vissent. Et c'est tout le problème de la prise de décision. Je suis frappé par l'exemple des entreprises japonaises où le processus de décision s'appelle le nemawashi. Ça consiste à demander à chacun son point de vue. Plusieurs fois, on fait plusieurs fois le tour de table jusqu'à ce qu'il y ait un consensus qui se dégage. Et une fois que le consensus s'est dégagé, à ce moment-là, le patron intervient pour dire « c'est ça qu'on va faire ». Bon, il y a une plaisanterie au Japon qui consiste à dire qu'au Japon, dans un groupe, celui qui parle le moins, c'est le patron, alors qu'en France, généralement dans un groupe, celui qui parle le plus, c'est le patron. Et donc c'est ce problème de la prise de décision. Laissons les gens faire ce qu'ils savent faire. Hein. Cessons de leur dire ce qu'il faut faire quand ils le savent par eux-mêmes. Hein. Et c'est comme ça qu'on va lutter, et là je suis d'accord avec vous, contre le désengagement. Si vous voulez, le désengagement résulte de ce que les gens ont le sentiment qu'ils travaillent malgré la direction, malgré le comportement de la direction.
Donc vous êtes complètement d'accord avec le concept des entreprises libérées alors, finalement.
Non, parce que... J'ai horreur, si vous voulez, des étiquettes. Hein. Parlons d'entreprise libérée, parlons d'entreprise de management participatif, peu importe. Mais c'est vrai qu'il faut lutter contre une vision qui est très française d'une organisation hiérarchique qui fait penser au régiment d'infanterie
de Napoléon. Donc c'est ce que je dis, vous êtes totalement d'accord.
Ah ben, il faut aller vers plus d'autonomie. Il faut aller, évidemment,
vers plus d'autonomie. Donc ce qui vous dérange, c'est juste qu'on se réclame d'une étiquette, c'est ça?
Ben, c'est-à-dire que ça n'est pas un concept qui est né dans les cogitations d'Isaac Getz. C'est quelque chose qui remonte à Proudhon.
Donc vous nous dites que ça se fait partout déjà?
Hein, pardon?
Vous nous dites que ça se fait partout déjà, ça?
Ah ben, pas partout, mais dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup d'entreprises qui ont réussi ou qui n'ont pas réussi. C'est, je pense, dans les années 80, il y a une entreprise dont on parlait beaucoup, qui faisait déjà tout ça, que c'était la fonderie Guillet à Auxerre. Mmh. Bon, elle faisait exactement ce que fait Favi aujourd'hui dans le Vimeux. Malheureusement, cette fonderie a disparu. J'espère qu'il n'en ira pas de même de Favi. Mais c'est pas nouveau. Vous aviez à l'époque, vous aviez Fevelet qui fabriquait des caténaires. Bon, avec son président Jean-Louis Ballarin qui avait mis en place des tas d'équipes autonomes.
Mais ça a
vous
toujours été minoritaire.
Le roi Sommer. Vous avez le roi Sommer.
Non, mais ça a toujours été minoritaire.
C'est minoritaire, mais
d'accord.
Si vous reprenez les assises du CNPF de 1979, vous verrez des dizaines et des dizaines d'expériences, alors justement contre ce dogme de l'organisation pyramidale.
Si c'était si courant que ça, pourquoi le télétravail ne se met pas davantage en place aujourd'hui, notamment dans des grandes villes où les gens ont des temps de trajet énormes et on voit bien que les entreprises sont extrêmement réticentes. Vous, chez vous, le télétravail, ça existe ou pas, Alexandre Gérard?
Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on a plus de 70% des gens. Alors, la majorité des personnes chez moi sont des itinérants, donc là, il n'y a pas tellement de sujets puisque c'est eux qui décident quand ils commencent, quand ils terminent.
Oui, et puis alors, une partie, les techniciens, ils ne peuvent pas travailler... De chez eux,
en fait,
qui viennent dépanner sur des
oui,
câbles.
En fait, ils sont des véhicules d'intervention qui sont sur tous les chantiers. Bon. On fait 100 000 interventions par an.
Il faut bien qu'ils soient sur le terrain
pour
travailler.
Il y a une soixantaine de personnes sur l'équipe fixe qui est à Nantes. Ce sont les services supports. Et en fait, on a aujourd'hui plus de 70% de gens qui télétravaillent chaque mois. Chacun peut télétravailler autant de temps qu'il le souhaite. On a mis en place toute l'infrastructure nécessaire pour pouvoir gérer les appels à distance, etc. Ce dont on se rend compte, et ça, je veux dire, c'est le retour d'expérience, c'est qu'en général, ils aiment travailler une journée par semaine, télétravailler une journée par semaine, et ils aiment la présence de l'autre. Et donc, en fait, il n'y a pas du tout de contrainte, chacun fait ce qu'il veut, mais ils aiment travailler en équipe.
Comment vous contrôlez le travail à distance, quand les gens travaillent de chez eux? C'est la question que tout le monde pose.
L'idée, c'est que chez nous, nous passons d'une logique de contrôle à une logique d'autocontrôle. Comment on a fait ça très concrètement ? On a, parce que remplacer du contrôle par rien, ça va être un capharnaüm. Donc on a envoyé un message à tous en disant, il y a quelques années, où est-ce que vous vous sentez contrôlé ? Une fois qu'on a reçu les retours, on a forwardé le message à nouveau en leur disant, mais maintenant que vous avez identifié les endroits où vous étiez contrôlé, comment vous pourriez mettre à la place des processus d'autocontrôle ? Co-construisez-les, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure.
Qu'est-ce que ça peut être, par exemple ?
On va prendre un exemple très concret. Les poids des véhicules, nous avons des véhicules avec du stock et des machines, et on est soumis à une réglementation, on ne peut pas dépasser 3,5 tonnes. Avant, je demandais tous les mois à ce que les véhicules soient pesés, pour qu'on en fasse l'inventaire, pour que je sois sûr que voilà.
Le contrôle à l'essieu, on connaît bien ça sur les routes africaines, parce que ça défonce les routes africaines quand les camions sont trop chargés. Je veux dire que nos auditeurs voient de quoi vous parlez.
Et aujourd'hui,
mais on continue de rouler quand même.
Et aujourd'hui, ça ne se fait plus comme ça. C'est-à-dire que chaque personne a la responsabilité de faire lui-même ses contrôles, et c'est tout. Et c'est pas plus compliqué que ça.
C'est utopique.
Non, c'est pas du tout utopique, parce que les gens sont responsables. Si on les met dans le contexte qui va le permettre, les gens sont tout à fait responsables. Il faut pas oublier que les gens, quand ils sont chez eux, ils élèvent des enfants, ils achètent une voiture, ils achètent une maison. Donc pourquoi ils seraient responsables à la maison et pourquoi ils seraient pas responsables dans l'entreprise ?
Si les salariés sont pas prêts à se responsabiliser, à s'impliquer davantage personnellement, est-ce que c'est pas un piège, cette souplesse, cette responsabilisation, pour demander aux gens de travailler encore plus ?
Alors,
puisque en fait, du coup, le seul chef, c'est vos clients, c'est le chiffre d'affaires, c'est la marge.
Ouais, ce qui est très intéressant, c'est que très souvent, lié à cette philosophie de l'entreprise libérée, on colle souvent l'étiquette du bonheur au travail qui est trop proche. Pour moi, c'est pas ce qu'on va chercher, c'est une conséquence. Je voudrais m'expliquer. Il suffit pas d'embaucher une chief happiness officer, qui est un des termes consacrés, une responsable du bonheur dans les entreprises, pour faire une entreprise libérée. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Et très souvent, ce qui s'est passé, c'est né dans les années 70, c'est ce qu'on appelait les techniques de rétention, où je vais créer un environnement dans l'entreprise qui est suffisamment positif, qui va attirer les gens, qui va faire que les gens se sentant mieux à l'entreprise que chez eux, vont y passer plus de temps pour les faire plus bosser. C'est pas du tout notre sujet. Là, on est juste dans une logique où on va chercher à ce que les gens puissent s'épanouir. Si les gens s'épanouissent, à ce moment-là, l'organisation sera plus performante.
Mamadou Gaye ?
Je voulais revenir sur ce que disait M. Landier tout à l'heure. Ce qui est nouveau, c'est l'alignement des planètes, en quelque sorte. C'est le fait d'aligner et d'avoir fait sauter ce rapport au temps. Les individus dans les organisations libérées ne sont pas payés au temps qu'ils passent dans l'entreprise, mais au travail qu'ils effectuent. Et donc, s'ils font ce travail en 6 heures, en 4 heures ou en 5 heures, c'est leur problématique d'un certain point de vue. Et du coup, la question du travail, du télétravail, par exemple, se pose différemment. On n'a plus besoin de contrôler le moment auquel la personne arrive sur son poste et le moment auquel la personne quitte son poste, par exemple. Et du coup, on a corrélé ça avec la notion de la rémunération, et je vais vous citer l'exemple de partenaire avec lequel je travaille, qui est la société Infusio, qui sont des partenaires, donc on est un écosystème d'acteurs, d'intervenants, qui récemment, donc c'est un processus qui prend du temps, a décidé de passer à la rémunération consciente. C'est un système de rémunération où chaque collaborateur décide par lui-même du niveau de rémunération qu'il juge juste par rapport à son travail et par rapport à son implication. Ils ont fait ça à l'occasion d'un séminaire, et l'enveloppe qui était prévue initialement, et je ne trahis pas de secret en disant cela, l'enveloppe qui était prévue initialement pour la rémunération, il en restait. Lorsque chacun a décidé lui-même de sa propre...
C'est extraordinaire ça, donc les gens s'étaient sous-évalués en termes de valorisation financière.
C'est assez extraordinaire. Bon.
La rémunération consciente, c'est pas appliqué partout, Hubert Landier.
C'est ça qui est nouveau, et par rapport à ce que disait M. Landier, c'est vraiment ces notions-là de rapport de force au sein de l'entreprise qui sont passées à la co-construction, à la collaboration, au qu'on construit les règles, du coup on les respecte mieux, on se sent responsable et représentant de l'entreprise, chacun individuellement, porte l'entreprise et peut défendre l'entreprise une fois qu'il a interrogé les uns et les autres.
Sur ce problème de...
Et c'est concret, ça a été fait, hein, pour le coup.
Oui,
c'est
pas du télétravail. Il y a à peu près 25 ans, j'avais une assistante dont le travail était de faire de la frappe kilométrique et faire de la mise en page. Un jour, elle me dit, j'ai une heure de trajet pour venir, une heure pour repartir, ça serait aussi bien que je fasse ça sur mon ordinateur chez moi. Alors, oui, d'accord, mais comment vous allez mesurer le travail que vous faites ? C'est très simple, quand je me mets mon ordinateur en route, le taximètre se met en route, quand je l'arrête, le taximètre s'arrête. Bon, ça a très bien marché. Un jour, je me suis aperçu, ça ne me venait absolument pas, que derrière l'ordinateur, ce n'était pas forcément elle. Hein, c'était souvent son mari qui faisait le travail, ça ne venait absolument pas. Hein. Et puis j'ai découvert ensuite par la suite que j'étais devenu une espèce de client pour elle et qu'elle avait d'autres clients. Vous voyez, c'est important parce que ça change complètement le lien salarial traditionnel qui est un lien, dit le droit, de subordination. Et on passe de la subordination à la collaboration à un projet commun.
Le salarié devient un mercenaire.
Alors, ce n'est pas le terme que j'emploierais, hein, puisque...
C'est ce que j'ai compris de ce que vous avez dit, finalement. Alexandre Gérard, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, moi je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on a un droit qui est tout à fait lié à l'organisation pyramidale, et le lien de subordination, est, à mon avis, sera remis en question dans les années à venir, puisque je pense, pour ma part, que nous sommes au début de cette transformation, je ne vais parler que de la France, je pense, et c'est le pari que je fais, que dans moins de 5 ans, les entreprises, le monde de l'entreprise basculera massivement vers des organisations de confiance.
Vous revenez du Canada, là, vous êtes allé faire des conférences. Comment ça a été reçu? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont testées?
Il y a des entreprises, on va prendre, qu'on appelle ça entreprise humaniste libérée, plate à pyramide inversée 2.0, 3.0, peu importe la façon dont on l'appelle. Moi, j'aime dire entreprise libérée parce que la liberté, c'est un mot magnifique. Je peux vous donner des exemples d'entreprises qui fonctionnent comme ça, d'organisations au Canada. Je peux vous en donner à Madagascar. J'étais à Madagascar il n'y a pas très longtemps. J'ai vu une école qui fonctionne exactement sur ces principes. Il y en a partout, il y en a absolument partout.
Effectivement, donc, il n'y a plus d'absentéisme des enseignants?
Non, en fait, ce sont... Non, bien sûr, mais c'est... Non. Pour ce que j'ai pu aller voir, puisque j'ai visité cette organisation, elle fonctionne avec des principes et il y a un niveau d'engagement, d'implication qui est absolument incroyable. Donc ça, c'est la réalité de ce qui s'y passe. Je voudrais venir sur un point de la gestion des tensions, en fait, puisque comme on bascule dans une logique où il n'y a plus le chef régulateur, puisque dans une organisation pyramidale, c'est le chef qui régule, finalement, comment ça se passe quand c'est le collectif qui va se mettre en œuvre? Et c'est un vrai sujet, parce que... comme c'est une organisation faite d'hommes et de femmes, forcément, il peut y avoir des tensions. Le principe que nous avons pris, c'est finalement de former tout le monde à la conscience de soi et à la communication bienveillante. On travaille avec tout le monde pour que chacun puisse s'exprimer, dire les choses, mais le dire avec une forme...
Chacun peut dire, voilà ce que je ressens.
Voilà. C'est ça. Et ça, c'est très puissant. Mais ce n'est pas tout. On a formé des gens chez nous qui sont spécialistes de la médiation. On en a formé qui sont spécialistes de la régulation, quand il y a de la tension dans une équipe. Et puis, on a une espèce d'organisme régulateur global qui fait que quand il y a des conflits qu'on n'arrive pas à traiter, eh bien, on va utiliser l'intelligence collective pour pouvoir être la régulation.
Ça veut dire que humainement, tout le monde n'est pas fait pour s'entendre avec tout le monde, mais tout le monde... est programmé pour pouvoir travailler avec tout le monde.
Est formé pour travailler avec tout le monde. Je veux dire, on est naturellement dans la compétition. On est culturellement dans la compétition. Par contre, on est naturellement des êtres collaboratifs. Si vous prenez un stylo, que vous le faites tomber devant un enfant qui marche à quatre pattes, le premier réflexe que va faire cet enfant, c'est qu'il va prendre le stylo et il va vous le redonner. Nous sommes naturellement des êtres de collaboration. Malheureusement, culturellement, parce que nous sommes notés, parce que nous sommes évalués, nous rentrons dans la compétition.
Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus aptes culturellement à adopter ce type de management, ou plus d'hiérarchie, rémunération consciente? Enfin, c'est quand même des choses assez, pour nous, assez stupéfiantes en France.
Bah, les États-Unis, moi je citerai très, très, très rapidement et très, très facilement, qui est une société vraiment basée sur la responsabilité de la personne. Et cette notion de liberté, de créer les meilleures conditions pour soi-même, et je prendrai l'exemple d'une université avec laquelle je collabore, dans l'état du Wisconsin, dans la ville de Madison. Je travaille avec eux depuis 13 ans. Et cette université, son enseignement, son approche pédagogique, et même la manière avec laquelle j'ai travaillé avec eux, repose sur le principe de confiance. Je suis arrivé, je leur ai parlé des compétences que j'avais, et la même expérience n'aurait pas nécessairement été possible en France. Donc, les sociétés, et la société américaine en fait partie, où cette notion de liberté est très forte, sont des sociétés qui ont des dispositions intéressantes à ce genre de transformation. Mais j'ajouterais des sociétés du type communautaire également, ont également des aptitudes et des postures. Et je parlais tout à l'heure du concept d'Ubuntu, Afrique du Sud, et qu'on retrouve un peu partout sur le continent africain, permettent cette notion de la reconnaissance de l'apport d'autrui, qui permettent également ces évolutions-là. Et on est en train de se nourrir de tout ça, je pense,
alors,
en France.
Comment changer le travail, l'organisation du travail? On en discute avec vous. Et vous pouvez bien sûr nous appeler au 33 1 84 22 71 71. I'll see your face 20 years from now. Nothing has changed. We never broke our vow. Blue eyes. Blood in Love chez 7 milliards de voisins. Nous parlons de ces transformations radicales dans certaines entreprises qui tentent l'aventure de l'entreprise libérée. Alors, il y a plein d'autres termes, vous nous le disiez, Alexandre Gérard. En tout cas, vous témoignez de la révolution dans votre entreprise dans le domaine du BTP de plus de 350 salariés. Vous souhaitiez intervenir à propos des syndicats, je crois, Hubert Landier. Parce qu'effectivement, dans une entreprise libérée, si tout le monde a droit à la parole, est-ce qu'il y a des syndicats ou pas?
C'est une question que je pose à Alexandre Gérard. Dans ce processus de transformation, le comité d'entreprise a-t-il été consulté et comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un accord d'entreprise sur la nouvelle organisation? Libération,
est-ce qu'il y a encore des syndicats ou pas, d'ailleurs? Dans une entreprise individuelle de plus de 300 salariés, vous êtes obligé?
Alors, non, on n'est pas obligé. On n'en a pas aujourd'hui.
Ça part sur combien de salariés?
Non, mais on en a eu avant, on n'en a pas aujourd'hui. Ce qui est important de comprendre, c'est que qu'il y ait de la présence de syndicats ou pas de présence, ce n'est pas une condition sine qua non du fait qu'il puisse y avoir une entreprise libérée ou pas. Hein. Il y a plein d'entreprises libérées qui ont des syndicats et ça se passe très bien. Harley Davidson, pendant très longtemps, a été un très bel exemple là-dessus.
Célèbre marque de moto.
Et ils avaient des syndicats et ça fonctionnait très très bien. Hein. Donc ce qu'on constate et ce qu'on voit, c'est que finalement, comme les décisions ne sont plus prises par le patron et imposées aux équipiers, comme les décisions sont prises par le collectif, mais finalement, on n'est plus dans une opposition en disant « chacun tire de son côté ». C'est plus du tout ça qu'on vit dans les organisations. Et franchement, ça montre un stade de maturité de l'organisation qui est plus intéressante. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de syndicats qui s'intéressent à ces transformations aujourd'hui. Il y en a même qui ont essayé d'expérimenter des choses et ça me ravit.
Aujourd'hui, les entreprises vivent de fait des transformations énormes avec le digital, le numérique est partout, les nouvelles start-up qui arrivent. Mamadou Gueye, comment vous ressentez ces transformations et la nécessité du coup de s'adapter à ces changements qui sont complètement structurels en fait avec l'arrivée des nouvelles technologies?
Le digital est un super exemple. Les start-up notamment, lorsqu'elles se créent et lorsqu'elles vont rencontrer des investisseurs, la chose qu'on leur demande en premier, c'est qui sont les hommes qui sont à la base du projet. Donc dans le digital, dans toute aventure entrepreneuriale, c'est avant tout les hommes, avant le super code qu'ils ont trouvé, avant le super algorithme qui va leur amener des millions, c'est surtout les hommes et comment ils s'entendent ensemble et comment ils travaillent ensemble qui intéresse l'investisseur, parce que c'est le garant de la pérennité du projet, de l'activité et de son succès. Et le digital est également intéressant d'un autre point de vue, c'est que on est face à des compétences. Il y a un acteur associatif qui s'appelle Simplon, qui est du côté de Montreuil, qui forme des personnes qui ne sont pas nécessairement diplômées au code. Et on est dans un domaine
au codage informatique. Dans l'émission, d'ailleurs, on a eu beaucoup de...
Et donc, ce sont des acteurs qui permettent à des individus qui viennent d'ailleurs de s'épanouir dans un domaine qu'ils ne connaissaient pas, d'apprendre un nouveau métier et donc d'évoluer et de satisfaire leurs besoins fondamentaux. Donc, je trouve que le digital, de ce point de vue, est une extraordinaire illustration de l'entreprise libérée. Avec un élément, c'est que ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de la transformation. On peut travailler dans le domaine des services, on peut être un ministère et faire une transformation sans nécessairement que le moteur de cette transformation soit la question digitale. Et les outils digitaux ne peuvent pas remplacer des choses aussi simples que se lever, aller voir son collègue, parfois, plutôt qu'envoyer un email pour lui parler, pour le rencontrer, pour résoudre ensemble une problématique, se retrouver, construire la confiance. Donc, le digital, oui, ça peut être un levier, mais ce n'est pas la seule
réponse. C'est pas forcément le
meilleur
ami de l'humanisation, en fait.
Une des clés de nos organisations, c'est l'accès à l'information stratégique. Et le numérique, la numérisation est très intéressante parce qu'elle va permettre à tous, plus facilement, d'accéder à toute l'information dont ils ont besoin pour pouvoir prendre les bonnes
dans
décisions.
Dans votre entreprise, vous donnez énormément de chiffres à tous les salariés.
Tout le monde a tous les chiffres.
Inhabituel d'ailleurs, par rapport à d'autres entreprises. Tout le monde connaît parfaitement la marge. Ouais. Et vous dites, autrefois, ma religion, c'était marge donnée, marge foutue. Pourquoi il ne fallait pas donner la marge à ses salariés?
Oui, alors ça, c'est dans certaines écoles de commerce, on apprend ça, marge connue, marge foutue, parce qu'on pense que, c'est toujours la vision déficitaire de l'autre, hein. On pense que si effectivement les équipiers ont accès à cette information, ils vont s'obliger à le rendre au client tout de suite. Et finalement, la réalité de ce que moi j'ai vécu, ce n'est pas du tout ça. À partir du moment où on a commencé à partager l'information et à engager cette transformation, le chiffre d'affaires a pris 15% et la marge a été multipliée par 4. Donc ça change vraiment tout, les gens sont responsables. Les gens sont responsables.
Sur le fait de communiquer, par exemple, des chiffres sur la marge, vous enseignez ça dans les écoles de commerce,
hein ? Les écoles de commerce, pas toutes, hein, mais ont souvent un comportement un petit peu ringard par rapport aux nouvelles méthodes de management. Elle duplique en France.
C'est quand même inquiétant parce qu'ils ont toutes les nouvelles générations entre les mains, non ?
Tout à fait. Hein. Je reviens au digital. Hein. C'est pour le meilleur et pour le pire. Parce que d'un côté, je vois le développement fantastique en France du travail collaboratif et des espaces de coworking. J'ai eu mon bureau dans un espace de coworking pendant quelques années, où ce sont des gens qui coopèrent librement à un projet commun. On a l'impression que on forme une équipe quand il y a un projet à mener à bien, cette équipe se défait, les gens vont participer à d'autres équipes, chacun selon ses compétences, et il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. Par contre, ce que je constate dans de grandes entreprises, malheureusement, c'est que les moyens informatiques débouchent sur une nouvelle centralisation d'entreprise, donne des moyens de centralisation qui reproduisent le système taylorien où il y a ceux qui exécutent, qui appliquent les consignes, les directives qui sont décidées par le siège.
Dans toute entreprise, dans toute organisation humaine, Alexandre Jarre, il y a des gens qui trichent, des gens qui enfreignent les règles. Du coup, on remet des règles.
Alors, chez nous, non. Et c'est-à-dire que pendant 15 ans, j'ai géré mon entreprise pour les 3%. Vous savez, les 3% de tricheurs et les gens qui piquent un peu de gasoil. Je l'ai fait pendant 15 ans et je mettais les règles sur les règles. Et à chaque fois que je faisais ça, je rajoutais un barreau aux fenêtres de l'entreprise. Bon.
C'est-à-dire, il y avait une circulaire, il y avait un mec qui était envoyé, une note prière de ne pas voler le gasoil dans les camions.
À chaque fois, je rajoutais une note de service, c'était devenu infernal.
Et donc, la majorité qui ne volait pas de gasoil dans les camions se sentait mal?
Oui, c'est comme si je mettais la boîte en prison, quoi. Pour les 3%, je mettais 97% de la boîte en prison, pour les 3% qui ne faisaient pas bien les choses. J'ai arrêté ça il y a 7 ans. Depuis qu'on a co-construit nos valeurs, on a arrêté ça il y a 7 ans. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de temps en temps quelqu'un qui fait un écart. Et je peux vous donner un exemple. Il y a 2 ans, il y a un gars qui, avec la carte bleue de l'entreprise, a claqué 2700 euros au pari des courses. Mais pour autant, clairement, il avait volé de l'argent dans l'entreprise. Mais pour autant, on n'est pas tombé dans le travers de remettre des règles.
Cette personne-là, qu'est-ce que vous faites avec cette personne, avec ce salarié ?
Elle avait volé l'argent, donc elle a quitté l'entreprise. Mais pour autant, on n'a pas mis en place des règles qui se sont appliquées à tout le monde. Voilà, tout simplement.
L'entreprise libérée, Madougaï, ça peut devenir un mode de gouvernance également pour des entreprises sur le continent africain. Vous avez vu le message que j'ai lu d'une auditrice ?
Complètement, ça peut complètement les aider. Après, il y a un autre chemin à faire comparativement à des entreprises situées en France, par exemple, sur la capacité des individus à prendre l'autonomie, à prendre la parole, à prendre l'initiative. C'est un autre travail qu'il faudrait opérer.
Ça ne va pas forcément de soi culturellement, c'est ce que vous voulez dire ?
Pas nécessairement. C'est une transformation dont on a besoin d'être conscient. Et il y a un mot qu'on n'a pas utilisé jusqu'à présent, c'est la notion d'intention. Il y a une intentionnalité, alors du dirigeant qui devient un dirigeant libérateur, mais de chaque personne qui compose l'organisation, avec une volonté d'œuvrer à un bien commun, de manière solidaire, en s'entraidant, en étant dans cette coproduction. Et donc ce sera cette dimension-là. Mais il y a un terreau super intéressant sur le continent africain du fait de la notion de communauté et de la notion d'entraide. C'est des choses que j'observe dans ma vie privée et qui sont très intéressantes à retrouver dans des organisations.
Un mot de conclusion à chacun, Hubert Landier. Alors les entreprises libérées, vous y croyez ou pas finalement? On n'a pas su.
Bien sûr, je crois dans la nécessité.
Il nous reste quelques secondes.
De faire davantage confiance aux gens et à créer davantage d'autonomie. Je crains malheureusement, compte tenu des freins culturels en France, que dans 5 ans, toutes les entreprises ne soient pas libérées. Et je retrouve le mouvement des cercles de qualité dans les années 80, quand on disait, mais les cercles de qualité, il y en aura dans toutes les entreprises
d'ici 5
ans.
Dans 30 ans, on y est toujours, alors c'est ce que vous nous dites. Alexandre Gérard.
En fait, comme dans toutes les innovations passent par toujours 3 stades. D'abord, c'est ridicule. Ensuite, c'est dangereux. Et après, c'est évident. Ça a été pour la Terre plate, ça a été pour le vote des femmes. Ça sera la même chose pour les entreprises libérées. Rendez-vous dans 5 ans.
Bon, eh bien moi, je conclurai avec la citation que vous avez donnée dans votre livre de Gaston Berger. Demain ne sera pas comme hier. Il sera nouveau. Il dépendra de nous. Il est moins à découvrir qu'à inventer. Voilà, à méditer pour toute la semaine. Alexandre Gérard, merci à vous. Vous publiez Le patron qui ne voulait plus être chef. Hubert Landier, vous êtes vice-président de l'Institut international de l'audit social. Et Mamadou Gaye, vous êtes consultant facilitateur en transformation culturelle des entreprises par l'intelligence collective. Merci à vous trois, merci aussi à toute l'équipe. Cécile Lavolo, Camille Néron, Hugo Violas, Raphaël Lazizi. Demain, 7 milliards de voisins. Ne manquez pas notre reportage sur les femmes en Iran avec Charlie Dupiot qui s'est glissé dans l'intimité des appartements et des chambres d'étudiantes.